OTV des élus et des rivières. Pour tout savoir sur l'eau et les rivières, une émission animée par Antoine Verochowski et Jérémy Pourreau. Avec l'Office international de l'eau et l'Office français de la biodiversité.
Épisode 10. Les zones humides, quel intérêt ?
Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Charlotte Lemoigne, je suis chargée de mission zones humides à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. La Fédération des conservatoires d'espaces naturels et le CPE Val-de-Gartempe se sont associés à OTV pour vous proposer aujourd'hui cette émission sur les zones humides et voir ensemble quels sont leurs intérêts et leurs atouts. La Fédération, pour ce qui est de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, elle porte depuis 2014 l'animation du réseau d'acteurs zones humides dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature, et ce, grâce au soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de l'Europe via le fonds FEDER-Loire. Du coup, c'est dans ce cadre que la Fédération des Seines a pu proposer ce sujet en concertation donc avec le CPE Val-de-Gartempe et du coup OTV des élus des rivières. Et on a pu aussi contribuer au montage et à la construction de cette émission. Et aujourd'hui, du coup, je vais me prêter au jeu de l'interview en questionnant Serge Gressette, qui est chargé de mission scientifique au Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Je laisse la parole du coup à Jérôme.
Merci et bonjour à tous. Donc moi, je suis Jérôme Clerc, je suis animateur du réseau technicien médiateur de rivières. Animé par le CPIE Val-de-Gartempe, en région Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine notamment. C'est un peu notre périmètre d'action. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu solliciter notamment la communauté de communes Loche-Sud-Touraine pour son expérience intéressante à vous communiquer au sujet des zones humides.
Alors, pour commencer cette émission, on va vous proposer en première partie une présentation un petit peu technique, mais tout à fait claire et adaptée sur les zones humides et leurs intérêts. Avant de parler des zones humides, nous vous proposons quelques mots de présentation du réseau des conservatoires d'espaces naturels. Serge, pourrais-tu nous présenter, nous dire en quelques mots qu'est-ce que le réseau des conservatoires et quelles sont leurs missions ?
Bonjour à tous, bonjour Charlotte. Alors les conservatoires d'espaces naturels, ce sont des associations à but non lucratif, associations loi 1901. Ce sont des organismes d'intérêt général reconnus par la loi, notamment par l'agrément ministériel 2014-008, ce qui fait que chaque conservatoire d'espaces naturels en région est agréé par l'État et la région. Donc, l'engagement des conservatoires se base sur la préservation des milieux naturels les plus remarquables de la région, pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou leur qualité géologique. Le réseau des conservatoires, c'est 40 ans d'existence. C'est un réseau de 24 conservatoires qui gère 3800 sites et 145 000 hectares. Et sur ces sites, on a environ 6 millions de visiteurs. C'est le premier réseau gestionnaire d'espaces naturels en France. On est présent sur une commune sur 8. Et on est fédéré et animé par une fédération, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Alors, les conservatoires d'espaces naturels, un petit peu leur mot d'ordre, c'est 5 axes d'intervention. C'est connaître, protéger, gérer, valoriser. La connaissance, c'est un petit peu le rouage de toutes nos actions. L'inventaire, les suivis, ça permet à la fois d'assurer la protection, la gestion et la valorisation, puis d'accompagner les politiques publiques. Les conservatoires d'espaces naturels donc, préservent les milieux à travers une maîtrise du foncier, donc soit par l'acquisition foncière, soit par le conventionnement avec des collectivités. Ces opérations d'acquisition de conventionnement se font toujours à l'amiable par la négociation. Les conservatoires d'espaces naturels ne sont pas dotés ni de droits de préemption ni de droits d'expropriation. Alors, une fois qu'on a préservé ces sites, eh bien, il faut les entretenir et les gérer. Donc là, on travaille notamment en partenariat avec des agriculteurs pour l'installation du pâturage ou la mise en place de pratiques de fauche adaptées à la biodiversité. Et puis en complément, en termes de valorisation, on assure à la fois de l'animation grand public et de l'animation scolaire, et puis on ouvre certains sites au public qui nous permettent d'assurer et de faire découvrir les richesses de la biodiversité. Et enfin, le réseau des conservatoires assure également l'accompagnement des politiques publiques. À titre d'exemple, on assure à la fois l'accompagnement sur le réseau Natura 2000. Et puis en région, par exemple, on assure également des réseaux thématiques à travers les plantes invasives ou les espèces invasives, ou aussi l'assistance d'ouvrage à la prise en compte des zones humides. Et donc en région centre, on est doté d'un réseau de 166 sites, 4836 hectares, donc un tiers acquis par le conservatoire. On a un budget entre 2,5 millions et 3 millions d'euros par an, 37 salariés, on a un conseil d'administration CA avec 19 administrateurs élus, on a un conseil scientifique, le CS, avec 38 conseillers scientifiques, un réseau de conservateurs bénévoles et 450 adhérents.
Merci Serge. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Et comment on définit une zone humide? Est-ce que cette définition, elle a évolué dans le temps? Est-ce qu'elle sera simplifiée ou complexifiée au fil du temps?
Alors, les zones humides, un petit peu, sa genèse, c'est la convention Ramsar du 2 février 1971 qui définit ce que c'est une zone humide à travers l'article 1.1. Une zone humide, c'est une étendue de marais, de faines, de tourbières ou d'eau naturelle ou artificielle, permanente ou temporaire, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris les étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres. Et très souvent, avec ces définitions-là, on associe zone humide et milieu humide, parce que quelque part, avec ces définitions, les deux sont synonymes. En France, de manière plus locale, la loi sur l'eau de 1992 explicite une définition de la zone humide un petit peu plus restreinte. On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles, c'est-à-dire des milieux très humides, pendant une partie de l'année. Donc ça, c'est l'article L211-1 du Code de l'environnement. Donc cet article a été modifié en 2008 pour préciser le terme, préciser le caractère humide. Et dans ce cas-là, ils ont précisé avec les attributs suivants ou dont les critères à retenir sont relatifs à la morphologie des sols liés à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Et quand on n'a pas de végétation hygrophile, c'est la morphologie des sols qui suffit à définir une zone humide. Et enfin, ils ont précisé également que la délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveaux phréatiques, donc des nappes, ou des fréquences et amplitudes des marées pour ceux qui habitent sur la côte. Donc ça, c'est la même source qui a été précisée par l'article R211-108 du Code de l'environnement. Donc, de manière, si on prend un peu de recul, finalement, la convention Ramsar a donné une définition un peu large de la zone humide en 1971. La loi française l'a précisé à travers la loi de 1992 et l'arrêté modifié de 2008. Alors, dans cette définition de zone humide de Ramsar, on peut aussi y trouver la définition d'un marais, qui est un milieu humide de type particulier, qui est caractérisé par une gestion effective des niveaux d'eau et un entretien régulier des digues et des chenaux. C'est typiquement les marais arrière-littoraux qu'on peut trouver notamment sur la côte atlantique. Et puis, on peut y trouver également d'autres objets qui sont les cours d'eau, les plans d'eau, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard par rapport à la loi française.
Quand on parle de zone humide, est-ce qu'on parle toujours du même type de milieu ou est-ce qu'il y a une diversité de zones humides?
Excellente question, Charlotte. C'est vrai qu'une zone humide, on le met au singulier dans la diapo, mais en fait, on devrait mettre ça avec beaucoup de S parce qu'en fait, une zone humide, c'est multiple. Elle peut être en milieu ouvert ou en milieu forestier, elle peut être à la campagne comme en ville, elle peut être en montagne ou sur la côte. Donc en fait, on a une multitude de zones humides. En altitude, on peut y trouver des zones humides liées aux combes de neige, aux lacs naturels ou aux tourbières d'altitude. Sur les bords des cours d'eau, on peut y trouver des ripisives, des bras morts, des prairies humides, par exemple. Et puis sur la côte, on y trouve les vasières, les lagunes, les marais desséchés. Et en ville, on peut y trouver les mares, qui sont très souvent les mares de village, qui sont aussi des lieux refuges de zones humides avec une très grande richesse. Donc on a vraiment une très très grande diversité de zones humides sur notre territoire et dans le monde.
Et au vu de cette diversité, comment on peut arriver à identifier une zone humide quand on est sur le terrain? Est-ce qu'on a des critères précis pour ça?
Alors, la loi française nous a bien précisé par l'article R211-108 que nous avions besoin, pour définir une zone humide, une présence de végétation hygrophile en surface, qui en fait s'exprime tout simplement parce que la nappe sous-jacente est affleurante ou en tout cas présente dans les derniers 50 cm de sol, ce qui fait qu'on a une végétation du milieu humide, du milieu hygrophile. Et quand on n'a pas de végétation hygrophile, eh bien, on se base sur la lecture du sol qui permet de définir ce que c'est une zone humide. Alors, de manière tout à fait simple, une zone humide, c'est trois critères. Tout d'abord, le sol, la présence notamment d'horizon, enfin d'une texture d'oxydoréduction, ou une nappe qui est affleurante, qu'on peut observer à travers un piézomètre. Le deuxième critère, c'est l'abondance de la végétation hygrophile. Très souvent, il faut qu'il y ait plus de 50% de végétation de type hygrophile sur un secteur qui permette de définir pour dire que c'est une zone humide. Et puis, troisième critère, qui est un petit peu plus complexe, parce qu'il faut avoir un peu d'expérience, c'est de travailler sur l'habitat. L'habitat, c'est une communauté d'espèces végétales qui forment un habitat, comme une forêt humide, une tourbière ou une mare. Et donc, ça permet, en fonction des types d'habitat, de dire si on est bien dans une zone humide ou non. Et dans ces zones humides, en tout cas au sens de la loi française, il y a des types de milieux humides qui ne sont pas des zones humides. À titre d'exemple, toutes les infrastructures créées pour le traitement de l'eau usée ou des eaux pluviales, type la station d'épuration, le lagunage, un canal ou un bassin de rétention, ne sont pas considérées comme des zones humides. Et puis, je sais que ça étonne très souvent, il faut savoir que les plans d'eau, les rivières, les fleuves, en eux-mêmes, ne sont pas des zones humides. Ce sont les bordures qui sont des zones humides. Ça étonne très souvent, mais ce qui fait la différence entre la loi française et la définition de la Convention Ramsar.
Merci Serge. On a une petite question. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de végétation hygrophile? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot?
Alors, hygrophile, c'est des végétations de aquatiques qui vivent dans l'eau, soit qui exprime un caractère très humide. Typiquement, un roseau, une phragmite. Je pense que tout le monde connaît des roseaux. Bah, typiquement, c'est une plante de milieu très, très engorgé. Voilà.
Super. Merci, Serge. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une zone humide et comment on peut l'identifier sur le terrain, quelles fonctions remplissent-elles? En quoi elles nous sont utiles et en fait, à quoi servent-elles?
Alors, c'est vrai qu'une zone humide, pour le biologiste ou l'écologue que je suis, c'est toujours un lieu riche de biodiversité, mais on y reviendra. Mais il faut aussi rappeler que ça remplit un certain nombre de services et par rapport à des fonctions. Et notamment, la première fonction, c'est la fonction hydrologique. C'est ce qu'on appelle le fameux rôle d'éponge qui permet à la fois de stocker l'eau et de la restituer au moment des étiages. Donc, vraiment, les zones humides ont un rôle essentiel avec le ralentissement des ruissellements dans la zone d'expansion des crues, comme à l'image avec la crue sur les prairies du Fouzon en 2003. Ça permet à ce moment-là notamment de recharger nos nappes. Et puis, l'autre élément important, ça permet de mettre en place la rétention des sédiments. Ça permet de conserver les sédiments. Et on verra juste après, ça permet également d'assurer cette épuration. Alors, l'autre fonction qui est bien connue, c'est une fonction physique et biogéochimique épuratrice. C'est quelque part, les zones humides, c'est un filtre naturel. Parce que quand, en recevant les matières minérales et organiques, elle est capable de les emmagasiner, pour certains de les transformer et de le retourner à l'environnement sous une autre forme. Donc, les zones humides ont un rôle important dans la dénitrification, notamment des nitrates, dans l'assimilation végétale de l'azote par les végétaux, par une absorption du phosphore ou une assimilation végétale des orthophosphates, donc travailler sur le phosphore et le phosphate. Et puis également, qu'on commence à connaître auprès du grand public, c'est la séquestration du carbone, que ce soit pour les tourbières, qu'on cite très souvent, mais aussi les prairies humides et également les forêts. Donc, la troisième fonction qui est classique, c'est que les zones humides sont un véritable réservoir de biodiversité pour, les plantes, pour la faune, les papillons, les oiseaux, les libellules. Les zones humides sont un cœur de biodiversité très important. Et très souvent, quand on a un milieu qui est diversifié et riche en plantes et en espèces de faune, on a très souvent des services rendus qui sont extrêmement performants. Donc, c'est aussi l'état de conservation des zones humides est très important, à la fois pour conserver les espèces présentes et puis pour assurer les services rendus. Et donc, dans ces services rendus, de manière un peu simplifiée, illustrée à l'image, vous avez donc des services rendus liés à l'eau, notamment l'épuration de l'eau, la recharge des eaux souterraines qui sont importants, la recharge des nappes, ou la rétention et l'exportation de sédiments, notamment par rapport aux matières nutritives. Ils ont une capacité, notamment au niveau de l'eau également, à assurer un soutien d'étiage, notamment au moment des périodes de sécheresse, comme on connaît actuellement, ou au moment des inondations, d'assurer l'expansion des crues et assurer une certaine maîtrise, en tout cas, par rapport aux zones habitées. Et puis, ça a aussi un rôle important sur le littoral par rapport à la stabilisation du littoral et la protection contre les tempêtes. C'est vrai qu'on cite très souvent les mangroves comme type de zone humide importante, mais c'est vrai que la disparition des mangroves a un impact important sur le retrait du trait de côte. Et enfin, dans les éléments aussi importants, c'est la séquestration du puits de carbone que j'ai parlé tout à l'heure, et puis c'est également la régulation du climat local. Très souvent, des zones humides en climat forestier donnent en tout cas un paysage très forestier, apporte très souvent une quantité d'eau plus importante dans ces secteurs-là. Et enfin, on a également des valeurs culturelles liées au tourisme et de loisirs qui sont très importants assurés par les zones humides, et comme je l'ai dit également, comme un support de biodiversité, et parce qu'à travers nos plantes et nos animaux, on a parfois des ressources importantes pour, en termes de cosmétiques ou autres.
On parle d'éponge, donc tu as parlé en service rendu de maîtrise des crues notamment, mais concrètement, est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ces services et ces fonctions, est-ce que c'est vraiment efficace, surtout dans le contexte de dérèglement climatique qu'on connaît aujourd'hui?
Oui, on a quelques chiffres qui nous permettent de mesurer l'intérêt des milieux humides et des zones humides. Il faut savoir qu'un hectare de milieu humide préservé, ça assure, en termes de lutte contre les inondations, une économie de 37 à 600 euros par an. Par hectare. Donc, c'est vraiment d'exposition des crues. Sur le traitement de l'eau potable, par an également en France, c'est à peu près 4 à 12 millions d'euros par an économisés grâce à la préservation des zones humides. Sur le stockage de carbone, donc le chiffre, c'est 75% du carbone atmosphérique est stocké par les tourbières, notamment dans le monde. Et les forêts et les prairies humides dans nos régions assurent également un rôle important dans le stockage du carbone atmosphérique. Et puis, côté biodiversité, c'est 30% des plantes menacées sont présentes dans les zones humides, c'est la moitié des oiseaux, c'est 100% des amphibiens ou 100% des libellules qui sont liées à ces zones humides, et qui ont besoin de ces zones humides pour vivre et se développer.
Donc, comme on l'a vu, ces zones humides, elles présentent de nombreux intérêts, notamment pour la ressource en eau, pour la biodiversité. Du coup, on se dit qu'il faut à tout prix les préserver, les protéger. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre du réchauffement climatique et de la sixième extinction de masse, est-ce qu'elles sont menacées?
Oui, elles sont menacées. Déjà, le premier élément à savoir, c'est que depuis 1900, dans le monde, deux tiers des zones humides ont disparu et 50% sur le territoire français. Et je dirais même que ça s'est accéléré sur le territoire français entre 1950 et 1990, avec une accélération assez démesurée, la disparition des zones humides. Et dans l'évaluation de l'état des zones humides 2010-2020, on peut voir que les zones humides existantes, il y en a 11% qui sont en amélioration, 48% qui se stabilisent, et il y en a encore plus de 40% qui sont en dégradation. Donc on a vraiment des zones humides qui se dégradent encore sur le territoire métropolitain. Alors quelles sont ces menaces? Elles sont multiples, elles ont impacté fortement les zones humides et elles les impactent toujours. On a notamment l'aménagement lourd des cours d'eau, l'extraction des matériaux qui est aujourd'hui interdit dans l'île mineure mais qui est toujours possible dans l'île majeure des cours d'eau, les aménagements portuaires, l'intensification des pratiques agricoles notamment la mise en culture d'un certain nombre de prairies, les pollutions industrielles, l'intensification de l'aquaculture, que ce soit sur les côtes ou dans les zones d'étang, le prélèvement d'eau, que ce soit pour l'eau potable, mais aussi pour l'irrigation, le développement de l'urbanisation des infrastructures qui empiètent sur les zones humides. Et pour couronner le tout, on a également les espèces exotiques envahissantes qui déséquilibrent les fonctionnements des zones humides. Et puis à l'opposé, parfois tout simplement l'abandon des terres agricoles qui avaient un intérêt pour les tourbières ou les prairies humides, comme zone de stockage de carbone par exemple, et qui sont abandonnées et qui deviennent parfois des zones de plantation de peupliers qui ont un rôle moindre en termes de zones humides et en termes de services rendus. Voilà. Je ne sais plus si c'est à toi ou c'est à moi après, Charlotte.
Après, si on peut continuer du coup après, c'est quelles sont du coup ces perturbations et les impacts de ces perturbations et pourquoi cela influe-t-il sur le fonctionnement des zones humides?
Alors, effectivement, toutes ces menaces ont un impact direct en termes de perturbation des zones humides. Alors, le drainage, la mise en culture et des prairies humides ou la mise, que ce soit pour de la culture ou pour de la populiculture, ont un impact énorme en termes de fonctionnement. Le remblai ou la mise en eau des zones humides, l'extraction de matériaux de construction, que ce soit des carrières de sable ou des carrières de pierre, ou l'aménagement du territoire à travers les zones de transport, les ZAC, ou les zones à urbaniser, ont un impact sur les zones humides. Donc, en termes d'impact, il y a la déconnexion des zones humides inondables, qui sont problématiques, la modification des écoulements, l'assèchement ou l'ennoiement des horizons supérieurs, ou l'imperméabilisation, la perte de la capacité de régulation hydraulique. Ce sont tous ces éléments qui viennent casser un petit peu les services rendus par la biodiversité et par les zones humides. L'altération et la disparition des filtres naturels ou l'augmentation des intrants, l'eutrophisation et pollution diffuse, qui vont modifier la flore et indirectement modifier la capacité d'épuration des zones humides. Et puis, sur les milieux et les espèces, on va banaliser la flore et la faune, un peu aider à ces milieux, que les espèces les plus rares disparaîtront. On aura un risque sur l'interruption des corridors écologiques et on va isoler les populations, c'est-à-dire qu'on va diminuer le domaine vital des populations, comme par exemple ici le busard des roseaux, jusqu'à craindre une disparition locale de population de cet oiseau-là. Et puis, on risquait de déconnecter ou de voir disparaître des habitats nécessaires au cycle de vie des espèces de zones humides. Là, vous avez l'exemple le brochet. Le brochet, pour frayer, il a besoin d'avoir accès à des prairies inondées en fin d'hiver ou en début de printemps pour pouvoir se reproduire. Donc là, à l'image, vous avez les zones de débordement et d'inondation de chaque hiver. Et on peut voir que parfois, avec le temps, ces inondations sont moins importantes et on a un nombre de jeunes brochets au millimètre carré qui se développent, qui sont quand même assez faibles à cause d'une baisse notamment de l'inondabilité de ces prairies. Donc, c'est un impact important. Donc, voilà. Donc, au-delà de l'impact sur les espèces, c'est un impact sur les différents services rendus. Et puis, comme un petit peu pour couronner le tout, on a l'arrivée de ces espèces invasives déjà depuis un certain nombre de décennies. Alors, c'est quoi une espèce invasive ? C'est une espèce qui est exotique, qui a été introduite directement ou indirectement par l'homme, qui est naturalité, qui est capable de se développer sans intervention humaine, qui est proliférante, c'est-à-dire capable de se multiplier très rapidement, et évidemment qui est aussi impactante, que ce soit pour la biodiversité, pour la santé parfois, comme avec l'ambroisie, ou pour l'économie. Donc ça, les espèces invasives vont modifier morphologiquement les habitats et mettre en place des colonisations monospécifiques qui vont modifier le fonctionnement et les services rendus. Ça va entraîner également une disparition de la diversité spécifique, donc le nombre de plantes va chuter et ça va diminuer nettement la biomasse de certains groupes, notamment des insectes. Donc en baissant le nombre d'espèces floristiques, on va baisser toute la diversité d'insectes et une partie de la... Et ça a une conséquence importante sur les chaînes trophiques. Et puis, ça a un impact sur la disparition de zones de reproduction et d'alimentation, notamment pour les vertébrés, oiseaux, amphibiens et autres.
Et du coup, comment faire pour les restaurer, pour préserver ces zones humides et donc leurs fonctions et les services qu'elles nous rendent? Est-ce qu'il y a des solutions?
Oui, il y a des solutions. En tout cas, en région Centre-Val-de-Loire, on met en place des solutions. Là, je vais prendre l'exemple du département du Loir-et-Cher sur lequel on met en place des actions. Donc, dans notre région, classiquement, donc, on intervient sur des sites à travers soit l'acquisition, soit le conventionnement. Sur ces sites que l'on maîtrise, on réalise des inventaires et on porte un plan de gestion. En fait, un plan de gestion, c'est un document cadre qui fait la synthèse des enjeux en termes de biodiversité, de conservation, et on définit des actions à mener en partenariat avec un certain nombre d'acteurs pour les conduire sur ces espaces-là. Alors, ça peut être de la restauration, ça peut être de la création ou de l'entretien de mares ou d'art d'état. Ça peut être un travail avec des agriculteurs locaux pour, via un conventionnement pour mettre en place de la fauche tardive ou un pâturage extensif. Sur les forêts, notre doctrine en interne, c'est de laisser vieillir librement les forêts sans intervention, sauf cas de figure très particulier. Ça permet notamment d'améliorer la séquestration du carbone. Et puis, sur certains sites, on ouvre certains sites au public de manière permanente à travers des sentiers ou des observatoires. Et en tout cas, on organise au minimum une animation grand public par an et on organise également des animations avec les scolaires ou les collèges. Alors, je vais vous prendre avec trois exemples sur le département du Loir-et-Cher, avec les Prairies du Fouzon, qui est classé espace naturel sensible. Donc, c'est un site qui est donc au sud du Loir-et-Cher, sur les communes de Séguy, Couffy, Meune, Selles-sur-Cher, Châtillon-sur-Cher et Noyers-sur-Cher. Les deux conservatoires interviennent, donc le conservatoire Loir-et-Cher et le conservatoire Centre-Val-de-Loire, pour à peu près 260 hectares de prairies préservées, avec des enjeux importants de biodiversité, du maintien du tissu agricole, et puis également des enjeux de l'eau, de préservation de la qualité de l'eau, du champ d'expansion des crues et des enjeux touristiques. Donc on est également animateur Natura 2000 sur ce site-là. Et on déploie maintenant depuis une quinzaine d'années les mesures agro-environnementales. Donc, on travaille en partenariat avec 11 exploitants agricoles pour mettre en place de la fauche et du pâturage. Ponctuellement, on met en place des travaux de restauration pour restaurer des prairies qui se sont refermées. On a créé également des mares et on les entretient. Et on fait une fête annuelle qui s'appelle Au cœur des prairies du Fouzon, qui a lieu tous les mois de mai. Et cette année, ça a lieu le 22, le 23 mai. Et on met en place chaque année des animations scolaires. En tout cas, régulièrement des animations scolaires. Donc là, vous avez à l'image à la fois les activités de fauche tardive ou un petit peu les joyaux des prairies du Fouzon, comme le cuivré des marais ou le tarier des prés. Autre site de zone humide, donc là, on est sur les bords de Loire, à l'île de la Folie, tout à côté de Chauvon-sur-Loire et du château. Donc là, c'est une propriété du conservatoire d'espace naturel, 11 hectares, et puis également une petite propriété du conservatoire Loir-et-Cher avec presque 0,3 hectares. On a également une convention d'occupation temporaire avec l'État sur 41 hectares sur le domaine public. Donc, en termes d'enjeux, c'est principalement de la forêt alluviale et des bois sur lesquels on ne fait aucune action. Donc, notre action, c'est de ne pas agir, sauf à entretenir les abords de notre sentier de découverte pour permettre de découvrir, en tout cas de permettre aux gens de découvrir en toute sécurité la richesse de cette forêt. Donc, c'est également un site qui est classé Natura 2000 sur lequel on est animateur. Et on réalise des animations grand public et scolaires sur ce site-là. Et puis, troisième site, Serge, également, dis-moi, Charlotte.
Est-ce que, juste avant de passer au dernier exemple, tu peux définir ce que c'est qu'une boire?
Alors, une boire, c'est une annexe, c'est une annexe hydraulique. Je sens que je vais devoir définir annexe hydraulique derrière. C'est une annexe, en tout cas, c'est un ancien bras de la Loire qui s'est refermé et sur lesquelles elle peut garder l'eau pendant 6 à 8 mois, et c'est notamment des zones de frais pour le brochet. Donc, ces zones de boire, elles évoluent avec le temps, elles peuvent s'ensabler. Troisième site, donc, c'est l'étang de Beaumont, qui est une propriété du conservatoire depuis 1997, 36 hectares. Donc là, on est sur un étang, un des plus grands étangs de la Sologne, avec un enjeu important sur les oiseaux d'eau, mais également les libellules, et puis la végétation aquatique. On a une plante rarissime dans notre région. Donc, c'est un site sur lequel qui est ouvert au public en permanence, avec un observatoire sur lequel on a un projet de rénovation. On a également un parking qui permet d'y accéder. Et en termes de partenariat, on travaille depuis maintenant également plus de 25 ans avec un pisciculteur professionnel qui assure une pêche tous les 2 ans. Et puis, pour pouvoir diminuer la pression liée soit au ragondin, soit au sanglier sur le site, on a une activité de chasse à tir à l'arc pour pouvoir diminuer l'impact de ces espèces-là sur la végétation ou sur les roselières. Et puis également, on a un projet d'installation, en tout cas de mise en place d'un pâturage ovin sur une partie du site. Voilà, et on est aidé par un réseau de sympathisants qui s'appelle le réseau de l'ADEP, qui sont des sympathisants bénévoles qui nous aident à entretenir le site. Voilà, je voulais juste remercier Charlotte à la fois pour son aide et son interview. Ma collègue Cécile Autobruc qui a réalisé cette présentation pour l'essentiel et puis Pierre pour l'utilisation des supports. Voilà.
Et juste une dernière question du coup qui est posée. Concrètement, si quelqu'un se pose la question de savoir s'il est sur une zone humide, il peut faire quoi ou se tourner vers qui? Et les zones humides sont-elles protégées par l'urbanisme?
Alors, on va commencer par la dernière. Les zones humides peuvent être préservées par l'urbanisme, mais à ce moment-là, il faut qu'elles soient référencées dans les documents d'urbanisme et les plans locaux d'urbanisme, que ce soit intercommunal ou non, ou simplement communal, à partir du moment où ils sont inscrits en zone N. Donc, normalement, les plans locaux d'urbanisme intercommunal, il y a une mise en place d'un inventaire des zones humides pour pouvoir les recenser et éviter de les urbaniser. C'est une obligation, donc il n'y a pas une protection stricte, mais il y a au moins une préservation d'une urbanisation. Et puis après, si vous êtes amené à identifier des zones humides, vous pouvez nous contacter au conservatoire pour avoir des renseignements dessus, ou au minimum, je vous renverrai vers des collectivités ou des organismes locaux qui peuvent vous aider soit à préserver la zone humide, soit à mettre en place une action de connaissance pour mieux la connaître et l'intégrer dans un certain nombre de politiques publiques.
Serge, tu pourrais repréciser oui. Le critère de visuel quand finalement on creuse un trou dans la terre. En fait, on voit si c'est humide ou pas. Quel est ce qu'on observe en fait, dans le sol dans ce cas-là?
Alors, la première chose, effectivement, il faut déjà à peu près faire un trou à peu près 60 cm avec une tarière. Si on voit simplement de la présence de l'eau, ce qui est un peu difficile en ce moment dans les sols, malheureusement, si on les voit dans les 50 ou 60 derniers centimètres, déjà, ça veut dire que c'est une zone humide. Et puis, si on ne voit pas de présence directe de l'eau, ce qui arrive très souvent, eh bien, en fait, il faut notamment soit chercher un certain nombre de traces grises particulières, soit des taches ocre et grises qui permettent de montrer qu'il y a eu présence au moins temporaire de l'eau dans ces sols. Et donc, c'est comme ça qu'on peut montrer qu'on est face à une zone humide. De manière simple, ça marche ainsi.
Merci. Donc, effectivement, c'est une couleur gris-bleu qu'on retrouve dans le sol qui n'est pas forcément normale et qui est caractéristique de cette présence d'eau, ou qui est d'une présence d'eau antérieure, même si l'eau n'existe plus aujourd'hui.